VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 5 mars 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO condamne les attaques ciblant les femmes et les enfants en Ituri.
Au Niger, les partis pro-Issoufou Mahamadou organisent une marche et un meeting à Niamey.
En Syrie, un premier convoi humanitaire de l'ONU doit tenter aujourd'hui de faire parvenir de l'aide aux habitants de la Ghouta orientale.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump défend l'intention du président américain d'augmenter les taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium.
Toujours aux États-Unis, c'était la nuit des Oscars hier soir à Hollywood. En seconde partie de cette édition, nous retrouverons notre envoyé spécial à Los Angeles, Arzuma Compaoré.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a condamné les attaques ciblant essentiellement des femmes et des enfants en Ituri, dans le nord-est du pays. Cette région est le théâtre de violences récurrentes à caractère communautaire. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans un communiqué publié à la suite des derniers affrontements intercommunautaires, Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, s'est dite profondément choquée par ces violences ayant ciblé des civils et par le fait que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des violences entre éleveurs Emma et agriculteurs Lindou ont fait au moins 33 morts selon le gouvernement, 49 selon l'Église catholique. Madame Zerougui appelle les autorités à enquêter rapidement sur cette attaque et a veillé à ce que justice soit pleinement rendue. Elle a indiqué que la MONUSCO mène également des consultations avec toutes les communautés et les autorités afin de prévenir de nouvelles attaques et de stabiliser la situation dans la région. Le différend sur les terres entre ces deux communautés en Ituri est l'une des nombreuses sources de violence dans l'est de la RDC. Le regain de violence en Ituri, concentré autour de Djougou, au nord-est de Bounia, remonte à mi-décembre et a déjà fait une centaine de morts et 200 000 déplacés.
Au Niger, les partis politiques qui soutiennent le président Issoufou Mahamadou ont mobilisé hier leurs militants dans les rues de Niamey pour une marche suivie d'un meeting. Une mobilisation qui ressemble à une réponse aux manifestations contre la loi des finances 2018 organisée depuis quelques mois par la société civile et l'opposition politique qui jugent certaines mesures de cette loi antisociale. Sur place à Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les milliers de militants des deux regroupements politiques de la majorité présidentielle MRN et APR se sont retrouvés après une marche dans les rues de la capitale Niamey à la place de la Concertation, lieu du meeting où les leaders, eux, les attendaient. C'est Mohamed Bazoum, le président du PNDS-Taria, le principal parti de cette majorité, qui est intervenu pour les remercier de cette mobilisation avant d'évoquer la question de la loi des finances 2018, objet de vives critiques depuis des mois par les organisations de la société civile du fait de certaines mesures fiscales qui y sont contenues. Pour lui, toute cette agitation est l'œuvre de l'opposition politique, particulièrement du parti de son chef, Hama Amadou.
Il commencera d'abord par lancer un appel à une marche à Niamey le 29 octobre 2017. L'idée était de brûler les bâtiments de l'Assemblée nationale et entreprendre une insurrection sur le modèle burkinabé. Cette loi de finances, que contient-elle de si extraordinaire pour qu'elle puisse légitimer un projet aux desseins si radicaux?
Mohamed Bazoum et les autres leaders de la majorité ont quitté les lieux avec, disent-ils, le sentiment d'avoir démontré qu'ils ont le nombre avec eux, contrairement aux organisations de la société civile. Ces dernières qui ne désarment d'ailleurs toutefois pas, malgré l'annonce récente du ministre des Finances sur l'impossibilité de revenir sur cette loi des finances le 11 mars prochain, elles ont appelé encore les citoyens à descendre dans les rues pour des manifestations de protestation. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, plusieurs opposants au président José Mario Vache ont manifesté hier pour soutenir les sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest contre 19 personnalités. Les individus visés sont accusés de non-respect de l'accord de sortie de crise politique. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Les manifestants se sont rassemblés devant les bureaux de la CEDEAO à Bissau à l'appel d'un groupe d'activistes de la société civile. Le rassemblement s'est tenu 2 semaines après une manifestation de milliers de partisans du président Vaz qui avaient pour leur part dénoncé ces sanctions. L'un des organisateurs du rassemblement, Soumaïla Diallo, s'est dit très satisfait des sanctions, mais estime que le fils du président, qu'il considère comme étant le principal responsable de cette crise politique, doit aussi être sanctionné. La CEDEAO a annoncé le 1er février des sanctions prévoyant une interdiction de voyager dans l'espace régional et le gel des comptes bancaires contre des personnes accusées de bloquer l'accord de sortie de crise en Guinée-Bissau. Le rassemblement, encadré par un dispositif policier, s'est achevé sans incident. Les manifestants ont remis une pétition aux représentants de la CEDEAO à Bissau. Plus d'un mois après la nomination d'un nouveau Premier ministre, la Guinée-Bissau n'a toujours pas de gouvernement et les législatives prévues en mai ne devraient pas se tenir avant novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump défend l'annonce du président américain d'augmenter les taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. Deux responsables du gouvernement ont même laissé entendre qu'aucun pays ne sera exempté malgré les menaces de représailles à Abdourahmane Dia.
Peter Navarro, le conseiller du président Trump pour le commerce, a indiqué que pour l'instant, il n'est pas prévu d'exemption. Des déclarations qui viennent confirmer les propos vendredi d'un responsable américain sous couvert d'anonymat sur l'intention du président Trump d'annoncer cette semaine des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium et que cette décision ne souffrirait pas d'exemption. Wilbur Ross, secrétaire américain au commerce, a lui minimisé l'impact que cette mesure pourrait avoir sur le reste de l'économie américaine. Certains économistes tirent la sonnette d'alarme sur les risques que cette décision pourrait avoir sur des millions d'emplois. Des alliés des États-Unis comme le Canada, la Grande-Bretagne ou encore la France ont dénoncé l'annonce du président Trump et menacé de prendre des mesures de rétorsion. La Chine, de son côté, a indiqué qu'elle ne veut pas de guerre commerciale, mais ne restera pas sans réagir face aux menaces américaines contre ses exportations.
Une délégation sud-coréenne aujourd'hui à Pyongyang pour discuter des moyens de favoriser le dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis sur les programmes nucléaires de Pyongyang. Les Jeux olympiques d'hiver, qui se sont achevés le 25 février, ont permis un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud après 2 années de fortes tensions liées à ces programmes nucléaires et de missiles balistiques.
En Syrie, un premier convoi humanitaire de l'ONU doit tenter aujourd'hui de faire parvenir de l'aide aux habitants de la Ghouta orientale en dépit de la poursuite promise par le président syrien Bachar al-Assad de l'offensive meurtrière contre le fief rebelle aux portes de Damas. Le convoi comprend 46 camions transportant des aides médicales et de la nourriture pour 27 500 personnes, a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les quelques 400 000 habitants de la Ghouta orientale sont assiégés depuis 2013 et souffrent de graves pénuries.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, va tenter aujourd'hui à Téhéran de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien tout en demandant des gages à l'Iran sur son programme de missiles balistiques et ses ambitions régionales.
Une percée historique des forces anti-système eurosceptiques et d'extrême droite majoritaires en voix et en siège après les législatives dimanche en Italie bouleverse la donne et plonge le pays dans l'incertitude politique. La coalition formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue et le petit parti Fratelli d'Italia, frère d'Italie, obtient certes quelques 37% des voix selon des résultats partiels portant sur 2/3 des bureaux de vote. Mais à l'intérieur de cette coalition, c'est la Ligue de Matteo Salvini, formation eurosceptique et anti-immigration, alliée de Marine Le Pen en Europe, qui est en tête. Les antisystèmes du mouvement 5 étoiles réalisent de leur côté une percée historique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Élie Dico.
Le président américain persiste dans sa volonté d'imposer des taxes à l'importation de l'acier et de l'aluminium. Dans un tweet, il a écrit que lorsqu'un pays taxe nos produits à 50% et que nous taxons à 0%, nous allons bientôt imposer des taxes réciproques. Cette volonté affichée d'augmenter certaines taxes douanières a déchaîné de vives réactions dans le monde. Monsieur Trump avait écrit auparavant que les guerres commerciales étaient bonnes et faciles à gagner. La Côte d'Ivoire souhaite mobiliser 600 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette. L'opération va servir à financer son budget estimé à 6 756 milliards de francs CFA. La moitié de cette somme devrait être obtenue grâce aux recettes fiscales et près de 1 300 milliards de francs CFA seront mobilisés auprès des partenaires au développement. Le Kenya va bénéficier de 217 millions de dollars pour la mise en place de projets d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau. Ces nouveaux financements arrivent dans un contexte de forte pénurie d'eau à Nairobi, Mombasa et Kisumu. Ils serviront à construire un nouveau barrage à Mombasa, à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement et à moderniser les réseaux existants à Kisumu et dans d'autres villes de l'ouest du Kenya.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par les mondiaux d'athlétisme en salle à Birmingham en Angleterre et Francine Nyonsaba remporte le 800 mètres.
Oui, en l'absence de l'incontestable numéro 1 de la spécialité, Caster Semenya, la Burundaise a conservé son titre de championne du monde en salle du 800 mètres en 1 minute 58 secondes devant l'américaine Aji Wilson. De son côté, Genzebe Dibaba remporte les 3000 mètres. L'Éthiopienne a été sacrée pour la troisième fois d'affilée championne du monde sur cette distance, devançant en 8 minutes 45 secondes et 5 centièmes la Néerlandaise Sifa Hassan.
Bonne performance également de la Côte d'Ivoire. Muriel Aouré remporte le 60 mètres devant sa compatriote Marie-Josée Talou.
Les deux Ivoiriennes ont ainsi glané les deux premières places. Muriel Aouré en 6 secondes 97 centièmes, meilleure performance mondiale de la saison et record personnel. Marie-Josée Talou en 7 secondes 5 centièmes. Talou a devancé à la photo finish la Suissesse Mujinga Kabundji pour sauver l'argent et offrir un doublé à la Côte d'Ivoire qui décroche ainsi ses deux premières médailles mondiales.
Chez les hommes, Samuel Tefera a remporté l'or sur le 1500 mètres.
Exactement, l'Éthiopien a été sacré champion du monde en 3 minutes 58 secondes 19 centièmes. Il a devancé le Polonais Marcin Lewandowski et le Marocain Abdelati Iguidé. À noter la grosse déception du Burkinabé Hugo Fabrice Zango qui termine sixième du triple saut avec un triple bond mesuré à 17 mètres 11.
Football à présent en Guinée, Paul Put est nommé sélectionneur du Sili National.
Oui, c'est officiel, c'est bien Paul Put qui prend en charge les rênes de cette sélection après le limogeage de l'AP Bangoura au mois de janvier suite à l'échec des locaux guinéens au CHAN 2018. À 61 ans, le Belge a pour mission principale de conduire le Sili à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2019. La Guinée est d'ailleurs leader de son groupe après une journée devant la Côte d'Ivoire, le Rwanda et la Centrafrique. L'ancien sélectionneur de la Gambie et du Burkina Faso, avec qui il a atteint la finale de la CAN 2013, sera sur le banc de la Guinée pour sa première en match amical contre la Mauritanie le 24 mars prochain.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Mali.
Et c'est finalement le Burkinabé Souleymane Kone qui remporte cette 8e édition de cette compétition dénommée Tour de la Paix. Présent dans l'échappée du jour composé de 8 coureurs, l'étalon a su garder son avance devant les Maliens. Kone remporte donc ce tour avec une avance de 4 secondes sur Yacouba Diallo et 19 sur Bourama Koulibaly. Il faut préciser que la dernière étape de ce tour a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo, déjà vainqueur de la première étape.
Au Bénin, la feuille de route 2018 de la Fédération de cyclisme a été dévoilée.
Effectivement, c'est dans le but de développer le cyclisme dans tout le Bénin que la Fédération a décidé, avec le soutien de son partenaire, d'organiser 4 compétitions statutaires par an dans les départements du pays pour la détection de nouveaux cyclistes. Et pour ça, 4 villes ont été choisies, à savoir Banikwara, Klazoué, Djougou et Lokossa. C'est ainsi que la commune de Banikwara sera le lieu du lancement de ces courses de vélo ordinaire et de vélo de route le 18 mars prochain. Précisons que la date du Tour du Bénin est aussi connue. Ce sera du 6 au 13 mai prochain avec 12 pays invités. Au total, 6 étapes et ça commence à Tangueta pour finir par un critérium à Cotonou. Et on finit avec vous Idrissa pour avoir les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Atlanta et Phoenix 113 à 112, Toronto et Charlotte 103 à 98, Indiana et Washington 98 à 95, la Nouvelle-Orléans et Dallas un massacre 126 à 109, Milwaukee et Philadelphie 118 à 110, et les Clippers et Brooklyn 123 à 120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, 7 civils ont récemment perdu la vie au cours d'une opération de l'armée malienne dans le centre du pays. Et les parents des victimes exigent que l'on fasse la lumière sur cet incident tragique. Le gouvernement s'est engagé à ouvrir une enquête, tandis que les députés de la commission défense ont entendu le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Mais selon notre correspondant Kassim Traoré, les parents des victimes sont toujours en colère.
Nangarabakan est une localité de la commune de Sokolo, cercle de Nyono, région de Ségou. Les éleveurs et agriculteurs cohabitent en parfaite harmonie. Le 21 février dernier, un détachement des femmes s'est rendu dans cette localité. Les soldats ont arrêté 7 civils non armés, dont les chefs de village. C'était lors d'une cérémonie de baptême. Sekouba, parent des victimes.
Le même jour, l'armée a perquisitionné 2 maisons et incendié 2 motos dans la ville de Sokolo. Dans la commune de Djoura, le même jour, une autre patrouille de notre armée s'est rendue à Finadje, un village situé à 5 km de Djoura, où elle aurait procédé à la fouille systématique de l'ensemble des familles. Ce détachement s'est rendu dans le village de Soribou et a arrêté 2 personnes, à la personne de Modibo Biriba et Hamadi Ba, son gendre, dont nous sommes sans nouvelles.
Les députés membres de la Commission Défense Nationale ont écouté le ministre de la Défense sur cette affaire parce que l'État a reconnu une bavure à Sokolo. Honorable Belkoba, membre de la Commission Défense Nationale.
Nous sommes aussi dans un pays où l'armée est en pleine reconstruction. Le président de la République a donné des instructions fermes pour qu'une enquête soit ouverte et que les responsables soient punis de la dernière rigueur. Aujourd'hui, c'est une partie des populations peules qui ont été victimes. Elles comprendront que ce n'est pas un problème entre des ethnies. C'est notre pays qui a des problèmes, qui est en train de chercher des solutions. Ça va être prématuré que moi je dise un bilan. Je préfère attendre l'issue de l'enquête.
C'est le parti Sadi qui a mis cette affaire sur la place publique à travers un communiqué. Les premiers responsables de cette formation politique accusent le gouvernement. Omar Mariko, président du parti Sadi.
C'est d'inspiration du pouvoir lui-même qui, dans une prise de position, incite les soldats à agir de façon aveugle. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a dit, et en France, dans le monde, je ne négocierai pas avec des djihadistes. Au moment où il dit ça, Macron négocie avec des terroristes. Au moment où il dit ça, Macky Sall discute avec les Casamançais. Et lui, avec un régime corrompu, incapable de satisfaire les revendications fondamentales des populations, tu t'assois sur ton portefeuille et tu brandis le truc, je ne négocie avec personne.
Face à la colère des parents des victimes, le chef de gouvernement a donné des assurances. Soumaïlou Boubé Maïga, premier ministre du Mali.
Tout Malien qui se trouve en dehors de la loi, nous le combattons. Quand il y a eu ce qui s'est passé dans la commune de Sokolo, le gouvernement a dit clairement, il y a eu une action de nos militaires qui a abouti à ce que des civils ont perdu la vie. On a dit, nous allons, comme cela se doit, faire les enquêtes et prendre les décisions qui s'imposent.
En attendant, les parents demandent la remise des corps afin qu'ils puissent faire les obsèques. Ils dénoncent toute exécution sommaire et exigent qu'on leur dise le sort réservé aux autres personnes civiles arrêtées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, après la double attentat de vendredi dernier contre l'ambassade de France et le siège de l'état-major général des armées, l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les différentes implications dans ces attaques. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
48 heures après la double attaque qui a frappé la capitale, les Burkinabés restent traumatisés par la violence des assaillants, mais surtout par les cibles visées. Ces attaques ont mis à nu d'énormes failles au niveau sécuritaire. Si au niveau de l'ambassade, les terroristes ont essayé en vain d'accéder à l'intérieur, il n'en a pas été de même au niveau de l'état-major général des armées, où les terroristes ont eu accès à l'enceinte. Le colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala, expert international des questions de sécurité et ancien patron de l'ex-GIGN Burkinabé, attire l'attention sur ces failles.
C'est pour dire que notre système sécuritaire n'est pas suffisamment équipé ou formé, en tout cas n'est pas en mesure de les contrer. Donc, en déstabilisant un État, on est sûr qu'il ne va pas progresser du point de vue du développement et par conséquent offre le terreau fertile, trouver des gens à recruter. Mais au plan de la guerre, nous disons bien souvent que le renseignement est le nerf de tout. Et dans le cas du terrorisme, À défaut d'avoir aujourd'hui les moyens de renseignement très sophistiqués, il faut que chaque citoyen soit un agent de renseignement.
Les riverains et les Ouagalais en général ne veulent pas céder au découragement. La plupart jugent qu'il faut tenir bon face aux terroristes.
C'est pour déstabiliser le pays économiquement et puis pour avoir psychologiquement rendre peur à la population. Mais nous, nous restons toujours serrés.
Nous avons peur. Ce sont des gens qui nous connaissent et que nous, on ne connaît pas. Quand un ennemi te connaît et toi pas, il y a un problème. Tout le monde a pris peur. On est découragé parce qu'il y a eu des morts, mais si on arrête de travailler à cause d'eux, on va leur redonner de la force.
Il est difficile de ne pas voir des connexions avec l'ancien régime Compaoré, surtout après la revendication de GISM de Liada Gali, estime à demi-mot l'expert en sécurité, le colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala.
Gali, vous savez bien qu'il était ici. Comment il est parti? C'est suite à la chute de ses protecteurs, du régime qu'il hébergeait. Il est dans un état de vengeance, sinon même de renvoi de l'ascenseur aux autres qui le protégeaient et qui l'abritaient.
À la suite du président du Faso qui s'est exprimé aux premières heures de l'attaque, le Premier ministre a affiché une certaine fermeté au cours d'une visite à l'état-major général des armées. Rien n'arrêtera la marche du pays face aux terroristes, a lâché Paul Kabatieba.
Je voudrais condamner avec la dernière vigueur cet attentat lâche. Je voudrais faire comprendre aux terroristes que rien n'ébranlera la détermination du gouvernement et la détermination de notre peuple à surmonter l'adversité, à lutter contre les forces du mal et à rétablir la sécurité dans notre pays.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire à la découverte d'un artisan qui contribue à la lutte contre l'insalubrité. Son nom, Cosa Nature Dié, il recycle les pneus jetés dans la nature. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, est allé à sa rencontre.
Sa spécialité, redonner une nouvelle vie aux pneus usagés, des pneus qui traînent dans les rues et qui menacent l'environnement. Cosa Nature Dié est artisan. Depuis 3 ans, il recycle les pneus usagés qu'il transforme en meubles. Sa façon à lui, dit-il, de lutter contre l'insalubrité et la pollution.
C'est ma manière, ma partition, je dirais, de lutter contre l'insalubrité de l'environnement, bien sûr. Chaque jour, je dois prendre un pneu et je dois le transformer et réinsérer déjà dans la société. Moi, je me dis que c'est lutter contre l'insalubrité aussi.
Où vous trouvez les pneus?
Je les trouve dans les rues, bien sûr. Je les ramasse dans les rues, dans les carnivaux, partout. Parce que c'est jeté dans les carnivaux. Les carnivaux, ils sont bouchés.
Dans l'espace qui lui sert d'atelier à Yopougon, Cosa Nature passe des journées entières à transformer ses pneus usagés en meubles qu'il ira proposer à d'éventuels acquéreurs. Mais qui sont ses clients?
Mes clients, c'est les particuliers. Mes clients, c'est les hôtels. Mes clients, c'est les restaurants. Mes meubles, tu peux l'utiliser dans ton jardin. Dans des lieux publics même, c'est vraiment joli à voir aussi.
Donc on vient de fixer celui-là, comme ça. On va le tourner et il est utile. Voilà. On va l'utiliser tout à l'heure.
Cela fait donc 3 ans que ce photographe de formation s'est installé ici à Yopougon Figayo pour s'adonner à sa nouvelle passion. Mais jusque-là, aucune autorité n'est venue lui apporter le moindre encouragement. Il peut cependant compter sur le soutien des amis et proches.
Ah, en tout cas, ce travail qu'il fait, en tout cas, ça me plaît beaucoup.
En fait, j'apprécie bien le travail. C'est bien fait. Et ça nous permet de découvrir certaines choses.
Cosa Nature est seul à tout faire. Trouver des pneus, les recycler en meubles et leur trouver d'éventuels acquéreurs. Cela ne fait-il pas beaucoup pour lui seul?
Je dois faire tout moi seul. Je dois collectionner les pneus dans les rues. Il faut les ramener à l'adresse. Par exemple, tu as une commande ou pas, tu as autre chose à faire, tu vas déposer et quand tu vas revenir, peut-être tu vas t'y mettre à recycler. Il faut faire acheter les articles et tout ça, c'est moi seul. Donc, je pense que trouver un moyen d'aller vers les boutiques, leur proposer mon produit, je pense que ça fera du bien aussi. Ma seule boutique, c'est Facebook. Il n'y a pas d'autre boutique, il n'y a pas de local là où tu dois vendre. Les gens, ils cherchent, ils ne savent pas où trouver. Il y en a même qui ne sont même pas au courant d'ailleurs. Donc, c'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui existe, le recyclage en Côte d'Ivoire.
Âgé de 34 ans, Cosa Nature dit bien vivre de son métier et rêve de conquérir le marché ivoirien et sous-régional. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.
The natives in the Amazon worshipped it. Like a god.
La forme de l'eau, l'Oscar du meilleur film, à la nuit des Oscars, hier à Hollywood, à Los Angeles, en Californie. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Arzuma Compaoré. Arzuma, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Alors, des surprises ?
Beaucoup de surprises, mais pas vraiment, parce qu'ils étaient déjà dans la liste des nominés en tout cas pour les favoris de cette année. Je peux penser tout de suite à Jordan Peele, qui est du coup le premier noir américain, en tout cas réalisateur ou scénariste, à remporter l'Oscar du meilleur scénario original. Il a remporté le trophée, enfin l'Oscar. Et devant, à côté de lui, il y a aussi Frances McDormand, qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour Bill Bird, Les Panneaux de la Vengeance. C'est pas vraiment une surprise pour elle, parce qu'elle a déjà remporté aussi l'Oscar, un Oscar. Ça, c'est son deuxième Oscar, en fait. Mais c'est surtout sa prestation et son discours qui a un peu donné un peu de flamme à la cérémonie. Elle était vraiment très engagée, très enflammée pour dénoncer les abus qui sont faits aux femmes et dire que, bon, à partir de maintenant, c'est terminé. Donc, entre autres, c'est un peu ça que je peux vous dire d'ores et déjà sur ce qui s'est passé, les petites pépites qui ont eu, qui ont apporté justement cet esprit, ce vent de changement dans ces Oscars de cette année.
Ok, alors, pour nos auditeurs, dites-nous très rapidement, Arzuma, de quoi il s'agissait dans cette forme de l'eau et dans le film aussi qui a permis à Frances McDormand de devenir la meilleure actrice.
Alors, La forme de l'eau, c'est une romance fantastique entre une muette qui est employée une muette qui est employée dans une agence et qui va tomber amoureuse d'une créature marine qui a été enlevé plus ou moins par une organisation pour faire des recherches. Et c'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle aussi d'acceptation des différences de chacun. Et donc cette romance fantastique a vraiment séduit les membres de l'Académie qui ont voté et qui ont décidé de lui accorder justement l'Oscar du meilleur film.
Et Frances McDormand, très rapidement. Voilà.
Allez, Frances McDormand, son film, elle, parle de Three Billboards, des panneaux de la vengeance. C'est l'histoire justement de cette femme, de cette mère qui a perdu sa fille et qui décide de chercher la justice, de réclame de la justice pour pouvoir elle-même expliquer justement, ou en tout cas ce qu'on appelle faire une sorte de closure. Donc elle va essayer de mener une campagne, elle va installer des panneaux tout au long de la rue, d'une route, qui vont inciter toute la ville carrément à vraiment se réveiller. Mais ces panneaux-là incriminent ou en tout cas indexent une personne en particulier, c'est le shérif de la ville.
Ok, il nous reste une minute, parlons un peu du mouvement MeToo et plus généralement davantage d'ouverture d'Hollywood aux minorités.
C'est vrai, donc hashtag MeToo, c'était ça la trame un peu qui se passait, c'est toutes ces femmes qui ont décidé que suite aux abus sexuels qui ont vraiment été décriés ces derniers mois au niveau de l'industrie du cinéma à Hollywood ici, que maintenant il fallait que les choses changent. Donc à travers ça, c'est aussi un témoignage, en tout cas un besoin de plus d'équité, d'accès aux mêmes avantages que les hommes ont donc dans l'industrie du cinéma. Donc je pense notamment à ce que Frances McDormand a dit. Elle a dit dans son discours d'acceptation que maintenant il fallait que l'écriture des scénarios, il y ait plus d'inclusion.
Arzuma, merci beaucoup. Alors c'était notre envoyé spécial à Hollywood, Arzuma Compaoré. Voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci d'avoir suivi cette édition à la console Thomas Blondet. Merci à Anne Albusson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Unidos en nuestra canción.